Il est 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez La Méridienne. Et voici une nouvelle émission en partenariat avec l'INSERM. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Philippe Prévost. Bonjour.
Bonjour Mélissa.
Vous êtes enseignant-chercheur en sciences du langage et vous êtes ici avec Martha Manetti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante et votre thèse porte sur les profils langagiers d'adultes autistes. Alors vous faites tous les deux partie, quand même précisons-le, de l'unité INSERM iBrain, voilà, psychiatrie neurofonctionnelle, c'est l'équipe 1. Alors peut-être tout d'abord, souhaitez-vous nous dire, redire ce qu'est l'autisme et ses effets sur le langage ?
Donc l'autisme ou trouble de spectre de l'autisme est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par des difficultés au niveau de la communication et de l'interaction sociale, ainsi que par des comportements et des intérêts spécifiques et répétitifs. Et un trouble qui touche environ 1% de la population et un trouble très hétérogène. Donc c'est pour cela qu'on parle de spectre et c'est pour cela qu'on dit toujours qu'il n'y a pas une personne autiste qui n'est identique à une autre personne autiste. L'hétérogénéité se trouve au niveau de l'intensité des difficultés que les personnes autistes peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc des personnes différentes sont affectées de façon différente, mais aussi par rapport aux comorbidités. Donc l'autisme est très souvent associé avec d'autres diagnostics autres que l'autisme, mais qui sont associés avec. Donc très souvent, on trouve des personnes autistes avec aussi un trouble de développement intellectuel, avec un trouble du langage structurel, qui est défini dans la dernière version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM, comme une incapacité à comprendre et à construire des phrases avec une grammaire correcte. On va voir après que le langage structurel n'est pas que la grammaire. Donc nous avons ces deux troubles qui sont comorbides à l'autisme. Il y a aussi le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et aussi des troubles anxieux, des troubles dépressifs et d'autres conditions médicales telles que l'épilepsie ou des troubles de sommeil, etc.
Alors peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas tous des spécialistes, est-ce trouble du spectre de l'autisme ? Est-ce que vous voudriez juste préciser ce qu'on appelle un intérêt spécifique ?
Un intérêt spécifique, c'est donc les intérêts, c'est des intérêts que tout le monde a. Par exemple, moi, je peux être très intéressée à la musique. Un intérêt spécifique et restreint, c'est un intérêt qui est très intense. Donc moi, je vais avoir tendance à déjà savoir beaucoup de choses sur mon intérêt et parler toujours de ça et peut-être que de ça. Donc c'est pour ça qu'il s'est restreint et c'est pour ça qu'il s'est spécifique. Donc c'est un intérêt comme des intérêts qu'on peut avoir normalement, mais il a un caractère de spécificité parce que c'est le seul intérêt qu'on a. Et voilà, et c'est quelque chose de très intense.
Mais alors peut-être une question bête, j'ai l'impression que ça peut être tout le monde en fait, qui aurait un tel intérêt pour une chose dont on parle beaucoup parce que ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait que pour une personne autiste, on va parler d'intérêt spécifique restreint ? Quelle est la...
C'est-à-dire que, comme le dit Martha, vraiment la personne ne s'intéresse qu'à ça et ne parle que de ça, pratiquement. Il est vrai que nous, les personnes non autistes, peuvent avoir effectivement des intérêts et puis quelquefois effectivement ça peut être très marqué et on en parle souvent, sauf que peut-être on va parler d'autres choses également. On ne va pas forcément, comme pourrait le faire une personne autiste, tout ramener à cet intérêt particulier. Et puis il faut ne pas oublier non plus que pour avoir le diagnostic d'autisme, il faut avoir les deux dimensions telles que Martha les a rappelées en tout début d'entretien, c'est-à-dire avoir à la fois donc ses intérêts restreints, mais également avoir un déficit de la communication et l'interaction. C'est vrai que très souvent on entend parler de traits autistiques dans la population générale, on entend dire que quelqu'un est autiste, mais ça ne veut rien dire si le diagnostic d'autisme n'est pas posé, c'est-à-dire que s'il y a les deux dimensions qui sont effectivement là et dont on peut effectivement dire d'une personne qu'elle est autiste.
Et alors sur les comorbidités dont vous venez de parler, Martha, est-ce qu'il existe des personnes avec autisme mais qui n'ont pas forcément ces comorbidités? Et où est-ce qu'il y a toujours des comorbidités?
Il n'y a pas toujours des comorbidités, mais très très souvent. Donc c'est plus de 70% de la population autiste qui présente des comorbidités associées.
Et ce n'est pas toujours le langage. Les comorbidités, comme l'a rappelé Martha, peuvent toucher divers aspects. Nous, on s'intéresse plus spécifiquement à ce qui touche au langage, aux troubles langagiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un grand nombre de personnes. Il est difficile d'avoir une prévalence exacte pour la survenue de ces troubles. Et peut-être aussi ça passe par une définition de ce qu'on peut appeler un trouble langagier et peut-être au départ ce que c'est que le langage.
Et d'ailleurs, quelles sont les caractéristiques particulières qu'on peut trouver chez des personnes autistes quand on parle du langage?
Alors, quand on parle du langage, chez les personnes avec autisme, on peut parler d'abord d'un trouble qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui affecte ce qu'on appelle la pragmatique, c'est-à-dire l'utilisation du langage en contexte, en particulier quand on utilise de l'ironie, quand vous dites par exemple « Oh, quel beau week-end !» alors qu'en fait, vous avez passé un week-end complètement pourri. Tout le langage figuré, non littéral, donc l'humour, donc l'ironie, le sarcasme, tout ça, ça peut être affecté. Et également, quelque chose qui fait partie de la pragmatique, c'est tout ce qui concerne l'implicite. Donc quand vous dites par exemple... est-ce que Julie a rencontré tes parents? Et vous répondez, en fait, elle a rencontré ma mère. Il est sous-entendu qu'elle n'a pas rencontré mon père. Donc, il y a énormément d'implicites quand on se trouve dans une conversation, dans une interaction avec quelqu'un. Et les personnes avec autisme, ou une grande partie des personnes avec autisme, ont des difficultés avec ce qui concerne l'implicite. Donc ça, c'est un grand domaine, la pragmatique. Et puis après, on a d'autres domaines langagiers qui peuvent être affectés. Et c'est ce que Martha a appelé le langage structurel ou les aspects structurels du langage. Et donc ça, ça concerne plutôt des aspects, on va dire, combinatoires, c'est-à-dire être capable de mettre des sons ensemble pour former des syllabes. Par exemple, être capable de mettre un te et un re ensemble pour faire tre dans le mot tri, ou bien être capable de rajouter même un s devant ce tre et former un mot comme strict. Voilà, vous voyez, on a quelque chose qui peut être assez complexe en termes syllabiques, d'organisation des sons les uns avec les autres. Et puis, ça peut être aussi... l'organisation des mots dans une phrase, c'est ce qu'on appelle la syntaxe, c'est-à-dire que quand on parle, on met des mots les uns à côté de l'autre, les uns à côté des autres, pardon, mais il y a des règles, il y a des règles d'ordre des mots. En français, par exemple, une phrase typique contient un sujet suivi d'un verbe suivi d'un objet, par exemple, Julie embrasse Max. Et puis remettre ces mots dans un autre ordre, Max embrasse Julie, c'est les mêmes mots, mais le sens est différent. Donc il y a des règles qui régissent l'ordre des mots, donc la combinaison des mots dans une phrase, de même qu'il y a des règles qui régissent la combinaison des sons dans des syllabes. C'est ce qu'on appelle les aspects structurels. Et ces aspects structurels peuvent être affectés chez un nombre assez important de personnes autistes, sans qu'on sache exactement le pourcentage de personnes véritablement affectées. Et c'est ce qu'on cherche à savoir ici dans notre équipe.
Alors, peut-être encore une question à 10 euros. Est-ce que ce rapport à la syntaxe, il varie d'une langue à l'autre? parce que chaque langue a peut-être des contraintes de syntaxe différentes. Du coup, est-ce que certaines personnes sont moins en difficulté dans une autre langue ou pas?
Alors là, c'est une grosse question sur le langage en général. Peut-être on va faire un petit retour en arrière et définir ce que c'est que le langage. Le langage peut être défini comme une capacité cognitive qui va nous permettre d'exprimer nos pensées et de communiquer avec les autres. Et ce langage, cette capacité, en fait, se traduit en différentes langues. Le français, l'italien, dans le cas de Martha, l'arabe, enfin, toutes les langues du monde. Le langage, donc ce système langagier, est formé de certains principes, certaines règles qui seraient peut-être communes à toutes les langues, avec des possibilités de, par exemple, déplacer des éléments à l'intérieur d'une phrase. Donc, par exemple, je vous disais tout à l'heure que le français, c'était plutôt sujet, verbe, objet. On peut trouver des ordres différents. On peut, par exemple, placer l'objet du verbe au début de la phrase. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Julie qui aime Max. Mais on pourrait dire Julie l'aime ou l'embrasse, c'était mon exemple. Et là, l'objet du verbe, le pronom objet, est placé devant le verbe. Donc Max l'embrasse. Tout d'un coup, on n'est plus dans Max embrasse Julie, on est dans Max l'embrasse. Et on dit que l'objet du verbe s'est déplacé pour occuper une position qui est différente de sa position de départ. Le déplacement serait une caractéristique du langage qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de plein de langues. Si, par exemple, des personnes ont des difficultés avec le déplacement syntaxique, être capable de placer un élément dans une position qui n'est pas sa position de départ, eh bien, on retrouvera des difficultés dans les langues ou dans les structures dans les langues qui utilisent le déplacement.
Et alors, pourquoi certaines constructions, certaines phrases ou types de phrases sont plus complexes que d'autres?
Alors ça, c'est une question qui est vraiment intéressante.
Merci.
C'est quelque chose, une question à laquelle on pourrait répondre en regardant plein de langues, mais peut-être on va se restreindre au français.
Dommage.
Sinon, on peut revenir une prochaine fois, Mélissa, je ne sais pas.
N'hésitez pas.
Alors, si je vous donne, par exemple, une phrase comme « Je connais l'homme que Marie a rencontré » et « Je connais l'homme qui a rencontré Marie ». Ce sont deux phrases tout à fait normales du français, complètement grammaticales, donc complètement autorisé, on va dire, par la grammaire du français. Mais peut-être que vous sentez qu'il y en a une qui est un peu plus complexe que d'autres. Et c'est effectivement le cas. La phrase qui contient... Donc, c'est deux phrases qui contiennent ce qu'on appelle des relatives, c'est-à-dire des propositions subordonnées qui modifient un nom. Je connais l'homme que Marie a rencontré. Je connais l'homme qui a rencontré Marie. Mais dans un cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu plus complexe, et c'est le cas de la première phrase, « Je connais l'homme que Marie a rencontré ». C'est une phrase qui est un peu plus complexe, et elle est complexe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle contient un ordre des mots qui est un peu différent de ce à quoi on pourrait s'attendre dans la langue française. C'est-à-dire « Je connais l'homme que Marie a rencontré ». L'homme, c'est l'objet de connaître. Normalement, un objet d'un verbe est placé après le verbe. Et là, l'homme est placé avant le verbe connaître. Je connais l'homme que Marie a rencontré. Dans l'autre cas, on a je connais l'homme qui a rencontré Marie. Marie est l'objet du verbe connaître. Il est placé après le verbe connaître. Et l'homme qui a rencontré Marie, l'homme est le sujet de connaître, et l'ordre qu'on obtient est sujet, verbe, objet, c'est une phrase donc qui, on va dire, est compatible avec l'ordre typique du français. Et donc, assez généralement, même si on peut parler des détails ici et là, quand on a une modification dans une langue donnée par rapport à l'ordre des mots typique de cette langue, vous avez là une candidature pour des difficultés langagières pour des personnes qui souffrent de troubles langagiers.
C'est des structures qui apparaissent aussi plus tard dans le développement typique. C'est pour ça aussi qu'ils sont plus complexes.
D'ailleurs, le développement typique, est-ce que vous voulez peut-être rappeler aussi comment l'humain apprend à parler ? Quelles sont les phases peut-être typiques d'apprentissage du langage ?
Oui, donc on peut parler de trois phases principales. Donc vers 6-8 mois, les enfants vont commencer un processus qui s'appelle babillage, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à produire des syllabes conformes à les langues naturelles, mais des syllabes qui n'ont pas de sens. Donc babillage, les enfants vont commencer à dire par exemple « ba » ou « baba », qui est un babillage dupliqué. Donc nous avons deux fois la même syllabe. Vers 10 mois, entre 10 mois et 12 mois, les enfants vont commencer à produire leurs premiers mots, qui vont ensuite commencer à mettre ensemble à partir de l'âge de 20 mois, 24 mois. Donc c'est des phases qui sont universelles, ça veut dire que peu importe la langue que l'enfant parle, il va passer à travers ces phases et on va arriver au même résultat d'acquisition dans le cas de l'acquisition typique.
Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qu'on peut trouver chez les personnes autistes en fait de langage ?
Oui. Donc, nous avons parlé de troubles du langage. Ça veut dire qu'on peut distinguer des personnes autistes qui ont un langage normal, donc dans la norme, et des personnes qui ont un trouble. Au milieu, nous avons aussi ce qu'on appelle des atypies du langage. Ils ne sont pas des troubles, mais c'est des façons atypiques d'utiliser le langage. On retrouve très souvent de l'écolalie, qui peut être immédiate ou différée.
Donc, c'est quoi ?
L'écolalie, c'est le moment où on répète, on reprend des mots ou des parties des phrases, soit tout de suite, soit après certains tours de parole. Donc c'est le fait de répéter des parties du langage qui l'autre personne a dit ou qui nous on a dit avant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'autisme. Et il y a un caractère aussi de stéréotypie. Donc souvent les écolalies, ils ont des fonctions différentes. Donc ça peut être une façon de remplir un vide, de s'écorriger parce qu'on a donné aux réponses que ce n'était pas la réponse qu'on voulait donner, ou alors c'est quelque chose qui est lié à la communication avec des gens qu'on connaît, avec lesquels on partage des codes de communication. Et ça peut être aussi un rituel. Donc la stéréotypie, c'est ça. Donc un rituel verbal, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup de fois parce que ça nous calme, par exemple.
Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Oui. Donc on peut retrouver l'utilisation de jargon et des néologismes. Donc des phrases ou des mots qui peuvent sembler absurdes, mais qu'en fait ils ont une signification cohérente dans le discours de la personne. Et aussi une intonation atypique, c'est-à-dire soit plate, soit très chantante. Donc on peut avoir ces atypies au niveau de comment on utilise le langage, qui ne vont pas forcément dans le sens d'un trouble du langage.
Est-ce qu'il y a aussi des particularités peut-être sur le langage corporel ?
Oui. Tout à fait. Donc, le déficit de la communication qui représente la première dimension de l'autisme donc fait référence à la communication verbale et non verbale. Donc, les personnes avec autisme vont avoir tendance à peut-être ne pas regarder beaucoup dans les yeux, utiliser un sourire qui est pas tout à fait typique, voire ne pas sourire du tout, avoir une mobilité faciale qui est différente de celle des personnes à développement typique, et vont avoir peut-être des difficultés à utiliser des gestes, donc des gestes conventionnels dans l'interaction, ou par exemple pointer du doigt un objet qui nous intéresse, etc.
Et enfin, est-ce qu'il y a des particularités aussi peut-être sur le timbre de voix, le niveau de la voix ou le grain de la voix, de façon d'articuler particulière?
Oui, donc moi je parlais de l'intonation, donc de la façon dont le discours, donc on peut percevoir les discours, mais c'est vrai qu'il y a aussi des études qui montrent les différences au niveau vraiment du timbre de la voix. Et c'est quelque chose sur lequel travaille une collègue à nous, dans l'équipe, Marianne Latinus.
Alors peut-être qu'on peut préciser justement en fait de troubles du langage et d'autisme, est-ce que c'est le fait d'être autiste qui induit les troubles du langage ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est les troubles du langage qui vont vers l'autisme? Martha Manetti.
Donc c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On n'a pas une réponse aujourd'hui. On sait que plusieurs hypothèses ont été proposées. Une hypothèse est que le développement atypique du langage chez des personnes autistes est dû au fait que dans l'autisme, on a une interaction sociale qui est réduite et aussi on a des personnes qui ne s'intéressent pas aux autres. Et donc, entre les compétences qu'on utilise lorsqu'on est dans l'interaction avec l'autre, on trouve quelque chose qui s'appelle attention conjointe. En anglais, c'est joint attention, c'est-à-dire l'attention des deux personnes sur un même objet ou un même événement. Cette habilité, cette compétence a été proposée comme quelque chose qui peut prédire le développement du langage dans l'autisme. Et si c'est vrai que cette variable peut avoir des influences sur le développement à court terme, donc dans le développement langagier dans les toutes premières phases de l'acquisition, son rôle dans le développement des capacités à long terme est beaucoup moins clair. Donc on ne peut pas dire que c'est l'attention conjointe et les capacités d'interaction sociale qui causent un trouble du langage chez des personnes autistes. C'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Une autre hypothèse qui a été proposée est que les difficultés langagières des personnes autistes sont dues à une difficulté dans l'intégration des stimuli. Donc par exemple, l'intégration du son de la parole et du mouvement de la bouche. Donc ça serait une perception sensorielle altérée qui amènerait à un développement atypique du langage.
Alors peut-être ce qu'on pourrait rajouter, c'est le fait que il y a des personnes qui ont un langage structurel parfait, qui sont capables par exemple de faire des phrases très complexes, mais qui au niveau pragmatique, au niveau de l'utilisation au quotidien du langage, ont beaucoup de difficultés. Ces difficultés-là pourraient être dues en fait à leur autisme, en particulier la première dimension de l'autisme, donc des difficultés de communication et d'interaction sociale. Mais le fait que ces personnes aient des capacités langagières qui soient finalement normales du côté syntaxe, du côté phonologie, suggère qu'il n'y a pas de correspondance systématique entre le fait d'avoir un diagnostic d'autisme, d'avoir des difficultés de communication et d'interaction, d'avoir des intérêts restreints, et des difficultés langagières, notamment du côté des aspects structurels du langage. Donc ça suggère, encore une fois, une certaine autonomie. On a du mal à vraiment connaître les relations exactes entre ce qu'on pourrait appeler la sévérité de la symptomologie de l'autisme. Donc, on a vu tout à l'heure que Martha a parlé du fait que des personnes peuvent être atteintes à différents degrés dans leurs difficultés au quotidien. Et on a du mal à mettre ensemble ces degrés de difficulté avec le développement langagier, savoir s'il y a un lien direct ou pas.
Mais on y travaille. Et donc, par exemple, pour ma thèse, on a regardé s'il y avait des liens entre les habilités langagières des adultes autistes et la sévérité de la symptomatologie d'autisme. On a regardé aussi s'il y avait une différence entre les trois profils que j'ai décrits tout à l'heure et donc au niveau des symptômes d'autisme. Et on n'a trouvé aucun lien. Donc, ce résultat va plutôt dans la direction de dire que ce n'est pas la sévérité de l'autisme qui cause et qui explique les difficultés langagières chez ces personnes.
Je vous propose de faire une première pause musicale avant de poursuivre cet échange. Et nous allons écouter C'est normal, Brigitte Fontaine. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour dans la Méridienne. La 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 la
entendu un truc bizarre.
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà.
Ah.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
La la.
Mais...
La 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 la.
La 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 la. La 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 la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un
écoute,
peu?
Écoute,
oui.
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la. Mais
du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la
la la la la la la la la la la la. Mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte.
Et alors, il y a aussi des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme qui ne développent pas de langage.
Oui, tout à fait. Alors, le développement du langage, donc les premières étapes du développement langagier dans l'autisme sont assez bien décrites. On remarque en particulier que chez beaucoup d'enfants autistes, il y a un retard dans l'émergence du langage. Et d'ailleurs, ce retard de développement langagier ou d'émergence du langage est l'une des causes principales qui va amener les parents à consulter pour leur enfant. Et la recherche nous montre bien que beaucoup d'enfants avec autisme, en fait, ont un développement qui est retardé, notamment pour ce qui est de l'âge du premier mot ou l'âge de la première phrase, un âge qui peut aller vraiment au-delà de ce qu'on rencontre dans la population neurotypique. Donc, il va aller bien au-delà de l'âge de 2 ans, qui est considéré comme l'âge d'émergence des premières phrases, juste avant 2 ans. Donc, ça, c'est un premier cas de figure, donc le développement retardé. Il y a des enfants qui développent le langage, on va dire, de manière typique, quand on les compare aux enfants à développement neurotypique. Donc, les premières étapes sont là. Premier mot à l'âge d'un an. Ils arrivent, dans certains cas, à la première phrase. Et puis ensuite, on observe une sorte de régression à une étape antérieure, sans qu'on sache exactement la cause de cette trajectoire. On estime à peu près 25% la prévalence de ce type de développement. Et puis, il y a un troisième cas de figure. Là, ça concerne des enfants qui vont développer très, très peu de langage. On appelle ces enfants des enfants minimalement verbaux. Et donc, ça peut être des enfants qui vont utiliser peut-être un mot ou former des phrases de deux mots, juste finalement des... pas forcément sans qu'on voit d'organisation interne vraiment très très claire. Et ce sont des enfants dont la prévalence est estimée à peu près 30%.
Alors pour poursuivre cet échange, peut-être voulez-vous revenir sur la place qu'occupent les troubles du langage dans le diagnostic de l'autisme?
Oui, donc même si dans la dernière version du DSM dont on a parlé tout à l'heure, le langage ne fait plus partie des critères de diagnostic. Donc, on a parlé des deux dimensions, la dimension de la communication et de l'interaction sociale et des comportements et des intérêts spécifiques répétitifs. Donc, il n'y a pas la place pour le langage. Même s'il ne fait pas partie des dimensions diagnostiques de ces troubles, il est demandé aux cliniciens, lorsqu'ils posent un diagnostic d'autisme, de spécifier si la personne a aussi un trouble du langage, donc un trouble sur les plans langagiers. Donc, il est présent dans le diagnostic en tant que spécificateur et pas en tant que critère de diagnostic. Et ça, c'est un seul des changements qui on trouve au fil du temps dans la caractérisation de ces troubles en termes de diagnostic. Donc, au fil du temps, on a eu beaucoup de changements. Un autre changement important, c'était l'introduction du terme de spectre. Donc, dans la version précédente du DSM, on avait plusieurs catégories différentes. Donc, on avait le syndrome d'Asperger, qui n'était pas la même chose que l'autisme atypique, par exemple. Aujourd'hui, on parle de spectre, donc il y a une seule catégorie. Et cela explique pourquoi, bien qu'il y ait une grande hétérogénéité et donc une grande variabilité interindividuelle, on parle toujours du même trouble. Il y a un autre changement qui, pour nous, est très important parce qu'on travaille chez les adultes, est que dans la dernière version du DSM, il est spécifié que bien que l'autisme soit un trouble précoce, il est possible que les symptômes se manifestent à un moment de la vie où les exigences sociales dépassent les capacités des individus ou les moments où un individu n'est plus capable de masquer les symptômes. Et donc, il y a des traits autistiques qui deviennent visibles, qui n'étaient pas visibles avant.
Tout à l'heure, vous aviez dit hors micro que l'émergence du langage pouvait être retardée dans l'autisme. Est-ce que vous aimeriez compléter ça?
L'émergence du langage dans l'autisme peut être assez retardée. Et d'ailleurs, un retard dans l'émergence du langage est souvent la première raison qui fait que les parents vont consulter pour savoir ce qui se passe avec leur enfant. Des enfants qui, plus tard, seront diagnostiqués avec autisme. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on a une émergence retardée du langage, vont développer de l'autisme. Ce que je dis, c'est que quand une personne est diagnostiquée avec autisme, cette personne aura très vraisemblablement eu un retard de langage au départ. Donc il y a ça. Il y a aussi des enfants qui ont un développement, on va dire, assez normal du langage dans les deux premières années ou juste entre la première et la deuxième année. Tout va bien. Et puis, tout d'un coup, il y a ce qu'on observe, quelque chose qu'on appelle une régression. Donc, tout d'un coup, les enfants vont... c'est comme si ils ont atteint un stade de développement au niveau langagier, et ils reviennent à une étape précédente sans qu'on puisse véritablement expliquer pourquoi ou connaître la raison pour laquelle on observe cette trajectoire. Et ça touche environ 25% des enfants autistes.
Donc là, il est question des enfants. Je pense, peut-être y a-t-il eu beaucoup d'études sur les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, mais il me semble que vous travaillez justement sur les personnes d'âge adulte.
Tout à fait. Donc déjà, au niveau du langage, les études sur les enfants, ils se sont beaucoup concentrés sur deux domaines langagiers, c'est la pragmatique et les vocabulaires. La pragmatique, ça s'explique assez facilement, c'est parce que la première dimension de l'autisme est un déficit dans la communication. Et donc, on s'est beaucoup intéressé aux capacités pragmatiques de ces personnes et aussi à la connaissance lexicale, la connaissance des mots. D'un côté, nous avons la pragmatique qui est altérée chez toutes les personnes ou un grand nombre de personnes, alors qu'au niveau du vocabulaire, on pourrait dire que les enfants autistes, ils semblent être plutôt épargnés. On a beaucoup moins d'informations sur la phonologie et sur la morphosyntaxe, donc les deux domaines de langage structurel. Concernant les adultes, on a très très peu d'informations sur tous les domaines. Donc peu importe les domaines, nous avons très peu d'études qui ont exploré les habiletés langagères. Et donc c'est pour cela que Philippe Prévost a pensé à ses projets sur le langage chez les adultes autistes, pour essayer de décrire un petit peu les profils langagés de cette population qui est à ce jour encore très peu étudiée. Bien que l'Haute Autorité de Santé estime qu'aujourd'hui en France, il y a près de 600 000 adultes avec autisme.
Alors justement, avant de parler de votre thèse en cours, Martha Manetti, est-ce que ne pas utiliser la communication orale, puisque vous avez expliqué tout à l'heure que certaines personnes ne parlent pas, en tout cas n'utilisent pas la langue orale, est-ce que ça veut forcément dire que le langage n'est pas acquis ?
Non, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas du langage. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de spectre qu'on appelle des minimalement verbaux, donc des personnes minimalement verbales qui ont très peu de mots. C'est à peu près un tiers de la population autiste. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de compétences de langage. Et c'est pour cela qu'il est très important de bien choisir les outils qu'on utilise pour obtenir une mesure de langage chez ces personnes. Donc essayer d'avoir, par exemple, un échantillon de langage spontané ne va pas marcher, parce que ces personnes, spontanément, ne parlent pas. Et donc, il y a des outils qui ont été développés, au sein de notre équipe aussi, qui nécessitent des réponses plutôt automatiques et passives. Donc, par exemple, si on a une tâche de langage en suivi du regard ou en eye tracking, la personne n'a pas besoin de répondre à une question, n'a pas besoin de pointer du doigt un objet ou une image. Et donc, cela pourrait peut-être donner des informations sur son niveau langagier qu'on n'aurait pas si on utilisait des tâches plutôt actives.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Martha, il y a des études qui utilisent effectivement cette technique auprès de personnes qu'on appelle minimalement verbales, donc des personnes qui ont de grosses difficultés à développer du langage, et qui suggèrent qu'en fin de compte, même si ces personnes utilisent juste quelques mots ou mettre quelques mots l'un à la suite de l'autre, sont sensibles à ce qu'on a appelé tout à l'heure l'ordre des mots. Et donc, par exemple, une personne dont la langue maternelle est une langue pour laquelle on a un ordre typique sujet, verbe, objet, cette personne va préférer ce type de phrase plutôt qu'à des phrases qui utilisent un autre ordre des mots. Donc ça suggère qu'en fin de compte, il y a une connaissance langagière qui a été développée par la personne, quand bien même cette personne ne parle pas ou a des difficultés à parler. Et d'ailleurs, la différence entre ce qu'on appelle la compétence et la performance, c'est quelque chose qui est fondamental dans les études en sciences du langage. La compétence fait appel à notre capacité langagière qui est complètement inconsciente. Le fait, par exemple, qu'on sente qu'une phrase avec une relative objet, intuitivement, elle est un peu plus complexe qu'une phrase avec une relative sujet. Ça fait partie de notre connaissance langagière. Et la performance, c'est plutôt l'utilisation de cette compétence, soit pour former des phrases, donc ce qu'on appelle la production, soit en phase de compréhension. Pour comprendre une phrase, on a besoin de faire appel à notre compétence, à notre connaissance implicite ou inconsciente du langage, connaissance des règles, etc. Et donc, on peut arriver à travers ces techniques de eye tracking ou bien même des techniques d'imagerie cérébrale à peut-être cibler des connaissances qui vont au-delà de ce que les personnes pourraient nous faire croire qu'elles ont. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il faut absolument faire davantage de recherches sur ces personnes-là qui, typiquement, n'ont pas été étudiées dans la littérature jusqu'à présent ou très peu, alors qu'elles représentent, comme Martha l'a dit, à peu près 30% de la population autiste.
Alors, peut-être qu'on peut en venir à votre thèse, Martha Manetti. Alors, c'est les profils langagiers d'adultes autistes. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Donc, comme on l'a dit, la littérature à ces sujets est très limitée. Donc, il existe très peu d'études. Et je pense que c'est important, pour revenir à la question d'avant, de spécifier que faire attention aux outils qu'on utilise pour mesurer le langage, c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui ne sont pas minimalement verbales. Donc aussi pour des personnes qui ont développé du langage, il faut faire attention à ce qu'on utilise lorsque on veut tester des aspects spécifiques du langage. Si par exemple on veut tester la morphosyntaxe ou la phonologie, mais on le fait à travers une tâche qui nécessite l'interaction sociale avec la personne qui propose cette tâche, très probablement, la personne avec autisme va avoir des difficultés à compléter la tâche et donc on va sous-estimer les capacités de langage structurel de cette personne juste parce que dans l'autisme, on a toujours des difficultés au niveau pragmatique. Donc, il faut faire attention à ce qu'on est en train de tester lorsqu'on dit qu'on teste du langage. Et ma thèse utilise deux tâches qui ont été développées exprès pour essayer de contrôler l'évaluation du langage chez ces personnes. Donc pour la phonologie, une tâche de répétition de non-mots, et pour la morphosyntaxe, une tâche de répétition de phrases. Ces tâches permettent d'avoir une mesure des deux domaines langagés sans forcément qu'il y ait une interaction sociale. Donc on diffuse aux personnes des non-mots et des phrases et on leur demande juste de répéter ce qu'ils ont entendu. Donc ils n'ont pas besoin d'interagir avec moi pour répondre et pour compléter la tâche. Et donc, on propose ces deux tâches et aussi d'autres tâches de langage et de intelligence non verbale et des cognitions dans le sens plus large pour essayer de donner une image, de décrire les habiletés de ces personnes à l'âge adulte.
Et alors, sur les personnes qui participent à votre étude, vous avez fait intervenir combien de personnes ? Comment ça s'est passé en fait ?
Alors, il faut dire que recruter des adultes, c'est pas si simple. Donc, c'est difficile de trouver des personnes qui peuvent participer à l'étude pour plusieurs raisons. Donc, déjà, pas tous les adultes qui ont une suspicion d'être autistes sont diagnostiqués. Et nous avons besoin pour des questions de, on va dire, rigueur scientifique, d'avoir des personnes avec un diagnostic formel, donc posé par un clinicien, notamment un psychiatre. Et les personnes adultes sont aussi plus difficiles à joindre. Donc, soit il faut aller dans des structures dédiées, soit il faut essayer de diffuser des annonces. Mais dans ce cas-là, on va peut-être arriver davantage à des personnes qui sont indépendantes et donc qui ont des profils cognitifs assez spécifiques. Et on va peut-être, sans le vouloir, exclure des personnes qui ont des profils différents et donc des capacités plus limitées au niveau cognitif. On a recruté à peu près 50 personnes avec autisme et on l'a fait au centre ressources autisme, donc là où il y a l'équipe de recherche avec laquelle nous travaillons, mais aussi dans des IME, dans des foyers d'accueil médicalisés, pour essayer de vraiment donner une idée de l'hétérogénéité de ces troubles, même à l'âge adulte.
Alors comment vous allez, disons, trier après toutes ces données ?
Donc voilà, le diagnostic, c'est un facteur important. Pour le reste, on essaie de garder les données de tout le monde. Notamment, on a essayé de trouver des personnes avec des niveaux d'intelligence non verbale assez bas, parce que c'est une partie du spectre qui est très souvent à laquelle on ne s'intéresse pas assez, tout comme pour les personnes minimalement verbales. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données du langage et on les a mis en relation avec les données de l'intelligence non-verbale. Donc nous avons ces catégories qui sont le résultat de toutes les combinaisons possibles entre la présence et l'absence d'un trouble du développement intellectuel et d'un trouble dans ce qu'on appelle le langage fonctionnel. C'est pas si clair qu'est-ce que c'est le langage fonctionnel, mais on va le traiter comme si c'était du langage structurel. Parce que pour que le langage soit fonctionnel, nous avons besoin de savoir comment combiner des sons pour former des syllabes et comment combiner des mots pour former des phrases. Donc, il y a ces cinq catégories. On ne va pas parler de la catégorie qui vise à décrire les personnes sans langage fonctionnel, parce que notre étude s'intéresse aux personnes qui sont au moins minimalement verbales, donc avec des phrases qui sont composées d'au moins trois mots. Mais les autres quatre catégories sont des catégories qui visent à donner un aperçu de ce qui peut être la dissociation entre le langage et la cognition non verbale. Ça veut dire qu'on peut avoir des personnes avec un trouble du développement intellectuel, mais sans trouble du langage, tout comme on peut avoir des personnes avec trouble du langage sans un trouble de développement intellectuel. Et bien sûr, on peut avoir deux groupes homogènes, donc des personnes avec les deux troubles et des personnes sans les deux troubles. On est intéressé à cette classification parce qu'une étude qui a été faite toujours au sein de notre équipe il y a quelques années par une doctorante qui est maintenant chercheuse, Silvia Silleresi, toujours italienne. Cette étude a montré que ces catégories décrites dans la CIM 11 sont présentes chez les enfants avec autisme. Donc elle a regardé ces profils dans des enfants âgés de 6 à 12 ans et elle a retrouvé toutes les catégories décrites par la CIM 11. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut trouver la même hétérogénéité à l'âge adulte? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes profils ou alors il y a quelque chose qui change au cours du développement? Et en fait, les résultats, les premiers résultats que nous avons obtenus montrent que la population adulte est quand même un petit peu plus homogène que la population d'enfants. Ça veut dire que nous n'avons pas trouvé tous les profils, notamment le profil que nous n'avons pas trouvé, c'est les profils de personnes avec un trouble du langage, mais sans un trouble de développement intellectuel. Donc des personnes qui ont des difficultés au niveau langagier, mais qui ont des habiletés intellectuelles non verbales assez élevées, ou quand même dans la norme. Et c'est assez intéressant parce que c'est le profil qui était le plus prévalent chez l'étude chez les enfants. Donc on s'est posé la question, pourquoi on n'a pas trouvé le profil qui était le plus prévalent chez les enfants autistes? Répondre à cette question est difficile parce que notre étude n'est pas longitudinale, donc nous n'avons pas suivi les mêmes enfants de l'enfance à travers l'adolescence et pour arriver à l'âge adulte, mais on peut quand même s'appuyer sur les études longitudinales qui ont été faites, qui montrent que les personnes sans troubles de développement intellectuel arrivent à mieux développer ou à développer le langage, à différence des personnes qui ont un trouble de développement intellectuel dont le développement est très ralenti, voire absent au cours de la vie. Donc on imagine ne pas avoir trouvé ces personnes avec un trouble du langage, mais des habiletés intellectuelles élevées, parce que peut-être les habiletés intellectuelles ont aidé au développement du langage, qui donc arrive à être à fonctionner dans la norme.
Voilà, on n'est pas des spécialistes sur tout ce qui concerne la remédiation. Il existe des prises en charge qui vont réussir à aider les personnes avec troubles du langage. Alors, dans ce cas, on parle de personnes autistes. Il y a d'ailleurs des orthophonistes qui sont spécialisés dans la remédiation langagière chez les personnes autistes. Et ça peut prendre diverses formes, le recours à des pictogrammes, le recours à des images, des gestes. Et souvent, la prise en charge va travailler sur plusieurs capacités. Pas uniquement les capacités langagières, mais les capacités, on va dire, fonctionnelles en général. Essayer de faire en sorte que la personne, au niveau social, soit plus adaptée. Par rapport au langage, ça peut toucher, bien évidemment, ce qu'on a décrit tout à l'heure, donc être capable de faire des phrases, de faire des phrases de plus en plus complexes. Peut-être on va remédier à l'articulation, peut-être on va travailler beaucoup plus sur la pragmatique. En fait, ce à quoi on tend de plus en plus, c'est vraiment une prise en charge personnelle qui s'appuie sur une évaluation globale des capacités de l'enfant. Et bien entendu, s'agissant de la prise en charge orthophonique, qui s'appuie sur une évaluation langagière globale qui touche plusieurs domaines du langage, comme on a mentionné tout à l'heure, la phonologie, donc les sons, les phrases, le vocabulaire, la pragmatique.
Est-ce que vous nous expliquiez, Martha Manetti, qu'il y avait une évolution, disons, entre les publics enfants et les publics adultes? Est-ce qu'on peut dire que le vieillissement a un effet, comment dire, sur les personnes avec autisme? Est-ce que déjà le passage à l'âge adulte, puis le vieillissement, est-ce que ça modifie le rapport au langage?
On ne peut pas tout à fait le dire, parce qu'encore une fois, il n'existe pas des études à ce sujet. Donc, si on regarde les études qui se sont intéressées à la population autiste vieillissante, donc on va dire après 50 ans, on ne retrouve pas des études sur le langage tel qu'on l'a décrit tout à l'heure. On trouve des études que sur ce qu'on appelle le traitement langagier. Traitement langagier qui est composé de plusieurs domaines. Un domaine qui a été beaucoup étudié chez les autistes est celui de la fluidité verbale. Pour vous donner un exemple, pour obtenir une mesure de fluidité verbale, on va vous demander de énoncer tous les animaux que vous connaissez en une minute. Ou alors de produire tous les mots auxquels vous pouvez penser dans une minute. Des mots qui commencent par la lettre C, par exemple. Donc ça, c'est une mesure qui nous dit quel est votre type de fluidité verbale. Donc est-ce que vous êtes capable de produire des catégories sémantiques dans le cas des animaux? Et est-ce que vous êtes capable de répondre à une consigne qui est plutôt phonémique? Donc, se baser sur une lettre pour produire des mots que vous connaissez. Et ces études ont montré qu'il n'y a pas un seul schéma de développement et de vieillissement cognitif chez les personnes autistes. Plusieurs hypothèses ont été proposées, donc pour comparer le vieillissement dans l'autisme et le vieillissement dans la population neurotypique. Donc, c'est possible que l'effet de l'âge soit plus présent chez les personnes autistes, donc le vieillissement soit accéléré. Il est aussi possible que le vieillissement soit parallèle, mais il est aussi possible que le fonctionnement cognitif et les différences biologiques des personnes avec autisme les protègent en cas de déclin cognitif lié à l'âge. Donc on a ces trois schémas, et les études à ce jour ne nous permettent pas de choisir entre les trois. Donc, on ne sait pas vraiment quel est l'effet de l'âge sur les personnes avec autisme, ni quelle est la différence avec l'effet de l'âge chez les personnes neurotypiques, surtout au niveau de langage.
C'est peut-être votre sujet de post-doctorat?
Alors, il se trouve qu'en parallèle du travail de thèse de Martha, nous avons un projet de recherche sur justement le vieillissement dans l'autisme, qui est en collaboration avec une autre équipe de recherche à Tours, enfin sur Tours et Poitiers, le CERCA. On regarde l'effet du vieillissement sur des personnes très âgées dans l'autisme. Pour l'instant, on n'a pas encore recruté de personnes, on n'en a pas recruté beaucoup, des personnes très âgées avec autisme. Elles ne sont pas si faciles à trouver. Tout à l'heure, Martha parlait de la difficulté de recrutement. Ça fait partie aussi du fait que finalement, ces populations ont été peu étudiées. Donc pour l'instant, on a fait le recrutement des personnes neurotypiques. Et on attend vraiment avec impatience de voir les résultats sur les personnes avec vieillissement. On s'intéressera bien évidemment au langage, mais on aura aussi toute une batterie qui mesurera des capacités cognitives plus générales, comme la mémoire en particulier.
Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. On va écouter Malvina Reynolds.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made
they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Alors Philippe Prévost, je crois que vous vouliez revenir sur trois choses importantes pour étudier le langage chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme.
Oui, tout à fait. À mon sens, il y a trois choses très importantes qu'il faut avoir en tête quand on veut étudier le développement langagier dans l'autisme. La première, c'est qu'il faudrait s'intéresser à l'ensemble du spectre autistique. Ne pas uniquement travailler sur des individus qui ont des facultés en termes de développement intellectuel normal ou dans la norme, mais aussi s'intéresser aux personnes qui ont un trouble du développement intellectuel, comme l'a mentionné Martha tout à l'heure, également des personnes qui sont minimalement verbales. Voilà, c'est important de travailler sur, finalement, tous les individus autistes. La deuxième chose qui est très importante, à mon sens, c'est de travailler sur divers domaines du langage. Donc, pas uniquement travailler sur le vocabulaire. On sait que la plupart des études, ou beaucoup d'études, ont porté sur le vocabulaire. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le vocabulaire, c'est pas le seul aspect langagier qui existe. Il y a d'autres domaines qui sont des domaines fondamentaux. Quand on produit une phrase, ce n'est pas simplement mettre des mots les uns à côté des autres, c'est aussi les combiner à travers des règles. Donc il faut absolument étudier différents domaines pour avoir en fait une sorte de cartographie des capacités langagières des individus. Est-ce que la personne est plutôt bonne en vocabulaire, mais est plutôt impacté en syntaxe, et puis la phonologie va bien. Ou bien une autre personne avec des difficultés en vocabulaire, mais finalement une syntaxe et une phonologie qui va bien. En fait, arriver à une sorte de profil langagier qu'on peut combiner aussi avec des capacités intellectuelles pour avoir vraiment des profils individuels très précis qui pourront éventuellement être ensuite pris en charge à travers une remédiation vraiment bien ciblée. Donc ça, c'est le deuxième point, les différents domaines langagiers. Et puis le troisième point qui est fondamental, alors il est important en général quand on fait des études sur le développement langagier, mais je pense qu'il est fondamental ou encore plus important quand on parle du développement langagier dans l'autisme, c'est d'avoir des outils d'évaluation langagière approprié pour cette population. Donc des outils qui font appel à peu de situations, on va dire, qui demandent une adaptation pragmatique assez marquée. Et c'est dans cet esprit, par exemple, que nous avons développé ou que nous utilisons des tâches de répétition de phrases, des répétitions de mots. Avoir aussi des tâches qui s'appuient le moins possible sur des images. On sait que les personnes avec autisme peuvent avoir des difficultés à mettre ensemble images et langage parlé. Donc voilà, ça, c'est un challenge, mais il faut absolument le faire. Et c'est d'autant plus un défi pour des personnes qui n'ont pas de langage. Et là, comment est-ce qu'on peut arriver en fait à leurs compétences langagières? Comment est-ce qu'on peut arriver à savoir ce qu'elles savent? Là aussi, le développement de techniques, eye tracking, etc., qui portent sur le vocabulaire, qui portent sur la syntaxe, etc., est très, très importante.
Philippe Prévost, enseignant-chercheur en sciences du langage à l'Université de Tours, et Martha Manetti, doctorante